carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Que vous connaissiez ou non la peinture de Velikovic, ne manquez pas l'exposition présentée par la ville de Montélimar dans le cadre de ses expositions d'art contemporain annuelles. Du 12 juin au 26 septembre, sur des lieux différents, à quelques pas l'un de l'autre, au cœur de la ville, l'exposition Vladimir Velikovic, peinture depuis 1968, est un événement. Jamais semblable rétrospective n'a été organisée en France sur le travail de ce peintre internationalement reconnu, figuratif et résolument moderne, membre de l'Académie des Beaux-Arts. À l'espace d'art contemporain Saint-Martin et au centre d'art de la chapelle Chabriant, 60 toiles, dont une dizaine de ces dernières années, jamais exposées jusqu'à présent, se répondent dans un accrochage équilibré et rythmé qui laisse à l'œil le temps de la respiration. Le regard de Velikovic sur le monde s'est posé sur les horreurs de la guerre, dans ce qu'elle a malheureusement de plus universel, ou bien sur la condition humaine, sur notre libre arbitre, sur notre course folle à griller quelques cartouches, toujours en mouvement, décomposition du temps, de la chair et de l'espace. Figure humaine ou animale? Qu'est-ce qui nous différencie au fond? Quand on erre dans la peinture de Velikovic, dans ces paysages de désolation laissés par la guerre, qu'importe son nom puisqu'elle est toujours là, le voile peut se déchirer, l'espoir se lever, une fin est possible. C'est précisément ce que montre cette exposition en réunissant des dizaines de toiles de l'artiste, la cohérence d'une œuvre, le fil d'une narration. De 1968 à nos jours, dans ces séries en grand format, qu'elle lève le regard du visiteur vers des verticalités en abîme ou sur des horizontalités mortifères, la peinture de Velikovic interroge sur l'humain. La douleur est-elle mesurable? Avec ou sans appareillage de crochets et de potences, avec ou sans homme figuré, avec ou sans présence animale, le choix de cette sélection sans concession pour nos émotions nous plonge dans les abysses du mythe de Prométhée. Le parcours permet surtout de saisir l'ampleur de l'œuvre, de prendre son temps et de se laisser conduire par la maestria de l'artiste. Vladimir Velikovic, peinture depuis 68, une vie. Dans cette émission, vous entendrez un entretien de Vladimir Velikovic sur les lieux de l'exposition à quelques heures du vernissage le 12 juin 2010. Puis vous entendrez Dominique Coffinier, le commissaire de l'exposition, pour une courte interview enregistrée quelques jours après l'ouverture au public. Pour l'instant, retrouvons Vladimir Velikovic le 12 juin à Montélimar. Vladimir Velikovic, bonjour.
Bonjour.
Comment est née l'idée de cette grande rétrospective qui vous est consacrée à Montélimar? Velikovic, peinture, 1968 à nos jours.
L'idée vient de Dominique Coffinier, qui est lui-même artiste, peintre, très bon peintre, et qui vit à Montélimar et qui a le souci de s'occuper de ce lieu qui s'appelle Saint-Martin, ancienne caserne de 45e régiment des transmissions. Montélimar, c'était une ville de garnison. L'idée était de transformer certains bâtiments qui servaient comme caserne en lieu d'exposition, des sièges des associations, des différents services. Et c'est, pour une ville relativement petite, un ensemble des choses, des bâtiments qui sont d'une assez énorme importance. Et puis une partie, dans l'attente d'une autre partie qui va être réaménagée, c'est une partie des dortoirs de l'ancienne caserne qui ont été transformés en salle d'exposition. Ce sont des salles qui sont très très bien, très belles, avec tous les soucis des possibilités d'accrochage avec les lumières, avec l'auteur du plafond, et puis un aménagement d'architecture intérieure qui est tout ce qui correspond à des galeries les plus contemporaines, avec les murs blancs, avec le sol neutre. Et c'était un travail qui a vraiment, vraiment réussi, cet aménagement de ces lieux-là. L'idée était, Domenico Finier avait cette charge-là de s'occuper de la programmation des expositions qui sont plutôt dans les périodes d'été. Il en a pris soin depuis un moment, depuis quelques années, et puis je suis déjà venu ici pour en participant à des expositions collectives. Notamment, il y avait une exposition qui a eu lieu il y a à peu près 2 ans, sous le titre « Liberté », qui réunissait plusieurs artistes. Et là, il m'a proposé, il y a à peu près 1 an, de faire une exposition personnelle. Et bien sûr, connaissant les lieux, j'ai accepté tout de suite en voyant une possibilité d'un parcours qui n'est pas une vraie rétrospective. Ce parcours est amputé de mes débuts parce que ça posait quelques problèmes techniques près des tableaux. La majorité de ces tableaux de mes débuts sont à Belgrade, dans le musée, et puis ça était vraiment une complication supplémentaire. Là, j'ai décidé que l'exposition démarre avec ma période parisienne. Bon, je suis arrivé à Paris en 66, mais les premiers tableaux qui sont exposés là datent de 68. Et là, c'est une période qui couvre les décennies de 68 jusqu'à nos jours.
Et ces premières toiles, de toute façon, sont celles aussi qui vous ont immédiatement fait connaître au public et de façon internationale.
Les tableaux qui sont dans cette première salle avec laquelle l'exposition commence ont été tout de suite après exposés sur l'invitation de Pierre Gaudibert, de l'époque responsable de l'ARC. C'était une section de Musée d'art moderne de la ville de Paris, qui était animation, recherche, confrontation. Et Pierre Gaudibert a fait, pendant son règne, si on peut dire, défiler pas mal d'artistes de ma génération. Et c'était un travail absolument remarquable qu'il a fait et très très courageux parce qu'il invitait les gens dans les locaux somptueux du Musée d'art moderne de la ville de Paris et il nous offrait ces salles magnifiques pour exposer, ne choisissant pas uniquement des gens réputés déjà. Ça a été axé, sa politique, surtout vers des gens qui commençaient leur aventure parisienne. Et là, on avait un défilé de tous les artistes qui sont de ma génération, même les plus jeunes. Et en 70, il m'a organisé une exposition avec les toiles faites à Paris. Et c'était un parcours qui a couvert quand même 3-4 ans de mon travail à Paris. Donc 4 tableaux qui sont exposés ici.
On trouve dans la première salle. Ce qui frappe l'œil pour le visiteur, c'est qu'on n'est pas dans les gammes habituelles de votre couleur. On a des fonds blancs, mais il y a déjà quand même beaucoup d'annonces de ce qui va se passer plus tard.
Oui, l'annonce est faite, mais l'explication de cette subite présence des couleurs dans mes tableaux, il y a une explication, parce que quand je suis arrivé à Paris, tout d'un coup, je me suis trouvé en présence d'un matériel abondant et varié que je n'avais pas l'occasion à utiliser à Belgrade, et pour une simple explication qu'il n'y en avait pas. C'est très compréhensible, et là, j'étais devant une sorte de choix qui était sans limite, et puis j'ai acheté toutes les couleurs, et je me suis lancé un peu dans une sorte d'aventure chromatique qui a duré quand même un petit moment, mais très très rapidement cette présence de la couleur a cessé par un simple constat que la forme et le contenu n'ont pas été en bonne entente. Et presque en 24 heures, j'ai décidé à passer sur une gamme chromatique très, très réduite, une sorte de monochromie, grise, noire, et avec quelques rappels de couleurs dans une sorte de charte qui était toujours plus ou moins présente dans ces toiles-là, et qui a quand même servi de montrer la présence des couleurs, avec aussi un effet plastique et pictural, comme une sorte d'éclairage de la toile. Parce que la toile, privée de cette charte, de cette gamme de couleurs, avait quand même une autre luminosité. Avec la charte, cette luminosité a tout d'un coup augmenté. Et puis, j'ai joué avec cette gamme de couleurs pendant un certain moment. Peut-être trop longtemps, mais c'était comme ça et pas autrement.
Quel regard vous portez quand vous avez pu voir l'ensemble de ces 60 toiles? Quel regard critique? Quelle satisfaction d'abord? Et puis là, vous dites que peut-être que vous êtes resté trop longtemps sur une période.
Ce que je peux constater, peut-être les choses devraient aller plus vite. Cette monochromie a probablement dû cesser quelques années avant, mais c'est comme ça, il n'y a pas de retour, c'est chose faite, on ne peut pas revenir en arrière, et j'ai toujours fonctionné par une sorte d'instinct, c'est-à-dire j'ai arrêté les thèmes, les sujets, les séries, quand j'ai senti qu'il n'y avait plus rien à dire, plus rien à ajouter. Et tout à fait spontanément, sans aucune stratégie, sans aucune préméditation, tout d'un coup, ça s'est un peu éteint, cet amour de cette monochromie qui m'a quand même paru une grande possibilité de travailler dans les gris, dans les noirs. C'est aussi les couleurs. Moi, je considère le noir, je ne suis pas le seul, comme une couleur, et qui est une couleur assez difficile, et je ne l'ai pas pour autant abandonné encore aujourd'hui. Mais c'était, je vous dis, une décision qui était prise comme ça. Tout d'un coup, j'ai pensé qu'il n'y avait plus rien à ajouter, il ne fallait pas continuer à tout prix, et puis je fonctionnais toujours comme ça. Les peintures, cette monochromie s'est arrêtée. Il faut dire aussi que tous ces tableaux de cette période étaient plus ou moins un lieu clos. Et à un moment donné, il y avait une possibilité dans un de ces tableaux, dans deux ou trois, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, d'ouverture. J'ai commencé un peu à fissurer ce mur bétonneux gris, et qui m'a permis d'apercevoir un bout de ciel, un bout de ciel clair, un bout de ciel bleu. Et ça a commencé à se dégager de plus en plus, et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans une sorte d'espace libre, dans un espace presque paysage. Et bon, bah, à partir de ce moment-là, j'ai fonctionné pas avec le sol et le mur, j'ai commencé à fonctionner par le biais de la terre et du ciel.
Alors, on passe de cette période de monochromie grise, ça serait comme toile emblématique, on pourrait citer peut-être celle-ci, non?
Il y avait différents thèmes. Il y avait la série des expériences où figuraient ces animaux détestables mais qui servent quand même à la science, qui sont les rats. Il y avait des chiens. Les chiens étaient assez bien perçus du public. C'était des chiens que j'ai appelés des variations sur un thème d'autoportrait. Je me voyais un peu plein d'énergie, en train de traverser la toile, en course avec tout un système qui était très présent à l'époque, avec de la numérotation, les fléchages, les lettres. C'était une explication aussi que je communique. J'ai voulu faire une sorte de contraste, d'opposition de l'espace et de cette forme qui est soit une forme animale, soit une forme humaine. Et là, ça m'a servi de créer une sorte de tension, une sorte de dynamique en opposant ces deux surfaces qui, finalement, je pense, ont contribué à une sorte d'ensemble qui était assez bien construit. Et la série des chiens m'a fait beaucoup de bien au niveau d'acceptation du public, parce que autant les rats passaient pas, les chiens ont quand même été acceptés. Et puis, par la suite, je pense que les chiens ont quand même, dans mon travail, par rapport au public, m'ont ouvert une sorte de brèche. Et je ne veux pas dire qu'après, le public a avalé tout ce que je faisais, mais le chien m'a beaucoup aidé à percer ce mur de refus qui est de temps en temps aussi maintenant présent, mais beaucoup moins.
Comment vous expliquiez d'ailleurs ce refus à l'époque ?
Je pense que le public, bon, il faut dire, c'est pas que je me vante, mais la critique a tout de suite accepté, parce que bon, ça l'engageait pas à grand-chose, mais un éventuel public, un éventuel collectionneur qui voulait acheter un tableau et avec ces sujets-là qui sont assez agressifs, assez violents, ça posait des problèmes. Et puis comme c'était une figuration et la lecture du tableau était, il fallait pas chercher dans des secrets de la culture, de l'intelligence, de tout. C'était quelque chose qui vous sautait dans les yeux et il y avait une possibilité d'accepter cette image ou de la refuser. Ce qui est toujours pour moi une bonne chose, une comme l'autre. Et je dis, je le répète, l'indifférence m'aurait fait quand même beaucoup de mal. Et là, il y avait, je vous dis, cette série de chiens, autant dans les dessins que dans les tableaux, grands, petits, mais plutôt des grands tableaux qui font presque 4 mètres. Et là, je pense que j'ai fait, par rapport au tableau précédent, j'ai fait un pas en avant.
Dans cette série, le fond du mur noir, justement, les murs de briques, quand on est face à l'œuvre, ça saute aux yeux. Mmh. Ensuite, vous évoquiez tout à l'heure ce passage de ce monde clos à des espaces différents, à d'autres paysages, un peu comme un voile qui se déchire sur un extérieur.
Là, toujours avec ce tableau qui était exposé à l'intérieur d'un triptyque.
Donc là, on parle de ce tableau, Homme, 1975-77.
Et c'est un tableau qui est accompagné d'un autre tableau sur le même thème. Ce tableau n'est pas l'exposition, mais il est presque pas identique, je suis incapable de faire de tableaux identiques, mais sur le même thème, avec ce corps décapité qui est posé sur une civière. Et là, ce tableau faisait partie d'un triptyque qui a été conçu pour une exposition qui s'appelait « L'art et la guillotine » et dédiée à un certain Topino Lebrun qui était une figure, un peintre, une figure historique qui a été décapité par Bonaparte, soupçonné de complot, où probablement il y avait une erreur sur la personne, mais il a payé par sa tête. Et cette exposition a été organisée par Alain Jouffroy à Beaubourg dès l'ouverture. On était plusieurs à traiter ce problème et ce thème-là, et je pense que cette commande, plus ou moins, a fait naissance de quelques très beaux tableaux parmi d'autres artistes.
Là, il va y avoir toutes les recherches aussi sur le corps en mouvement.
Ça a commencé avec ce fameux chien qui a pris un peu. La suite était une série des hommes qui courent, qui sont en relation avec un travail de ce photographe américain qui était Edward Maybridge, et qui a quand même m'a servi comme une sorte de document, parce qu'il faut que je dise que je n'ai jamais dessiné d'après le modèle. Je suis passé outre, je ne suis pas allé ni à l'Académie des Beaux-Arts, ni au cours du dessin, j'ai fait ça tout seul. Et ce Maybridge, avec sa décomposition du mouvement, ou composition si vous voulez, a le premier quand même décortiquer le mouvement dans tous ses états, sur différents thèmes, animal et aussi, bien sûr, humain. Et là, ça a été pour moi une information sur le mouvement. Je n'ai pas copié le travail de Maybridge, mais je me suis quand même inspiré au niveau de ce que j'aurais pu faire avec un modèle dans mon atelier. Mais c'était peut-être une facilité d'adhérer à cette explication des états du mouvement en partant de la marche, en se mettant à courir, et puis bon, en se lançant vers un saut qui forcément aboutit à une chute.
Ou qui monte les escaliers, ou qui sort.
Ça, c'est un peu plus tard. Il n'y a pas grand-chose dans cette exposition. Bon, il y a une une peinture qui montre cette série de descentes que j'ai faites autant dans les dessins et les collages qu'en peinture. Et c'était toujours cette idée de monter les escaliers, mais la série a été une sorte de tremplin avec les personnages qui se lançaient vers un vide incertain. Et j'ai toujours, cette série-là a été appelée descente, parce que bon, quand on a une montée, il y a une descente qui est forcément obligatoire.
On parlait du mouvement, de décomposition. Est-ce que, à partir de ce mot décomposition, est-ce que ça peut être un maître mot pour vous suivre sur tout votre parcours, là, sur plusieurs dizaines d'années ?
Décomposition dans le sens du mouvement ou dans le sens...
Justement, dans tous les sens.
Décomposition, forcément. Bon, le mouvement, à un moment donné, a eu quand même une sorte d'arrêt, parce que, comme toutes les séries que j'ai entamées, ça a dû à un moment s'arrêter. Mais la décomposition, dans le sens décomposition de la chair, il y a aussi cette partie du travail que j'ai examiné, j'ai exploité, j'ai mis en image, autant en peinture qu'en dessin, et qui est ce processus qui finalement aboutit à une certaine fin, qui est chez moi, au moins j'imagine, toujours arrêté juste avant. C'est-à-dire que ce n'est pas une finalité qui ne rime plus avec rien, c'est-à-dire qu'il y a quand même... J'espère au moins, je ne sais pas si c'est moi qui vois ou peut-être il y a les autres qui voient aussi, il y a une possibilité d'une solution plus optimiste.
Et puis il y a toute cette série des années 90 où les choses basculent sur une autre thématique où tout d'un coup le corps disparaît.
Juste avant de passer à cette... J'avais un problème de figure, manière de travailler avec la figure, avec le corps. Et puis j'ai fait toute une série de peintures qui sont généralement de grand format, tous de grand format, pas un nombre énorme, mais une quinzaine de tableaux de 3 mètres sur 2, tous verticaux. Il y a 2 horizontaux qui sont les premiers, mais je suis passé à la verticalité, qui est un peu ma manière de fonctionner. Le 90% de mes tableaux sont verticaux. Et j'ai éliminé la figure, j'ai éliminé le corps, j'ai éliminé tout ce qui était une présence qui pourrait être une présence vivante dans un espace. Et c'était une série des lieux, que j'appelle les lieux, oui, et qui sont... On peut associer à cette atmosphère de ces tableaux dans des chambres de torture, avec des crochets, avec des cordes, avec des égouts, avec quelques présences des rats, des tas de poussière. C'est-à-dire, j'ai essayé de faire un travail où la présence de l'homme était, malgré son absence, très très visible. C'est-à-dire, c'est lui qui a mis tout ça en place, pour que ça serve à quelque chose. Et après cette série-là, bon, tout à fait comme je vous ai dit, par instinct, par volonté de changer quelque chose, je suis passé à un changement technique d'abord, parce qu'il faut dire qu'avec la figure, j'ai commencé un peu à avoir quelques problèmes, quelques étouffements, quelques... tableaux qui n'ont jamais été terminés. Il y avait toujours une sorte de surcharge, de volonté de rendre ces tableaux efficaces et picturalement et au niveau du thème, du sujet. Mais un problème pictural. Et c'était subitement, par miracle, réglé par un simple geste technique, si on peut le dire. J'ai retourné la toile et j'ai commencé à peindre au dos de la toile. Et là, ça a changé radicalement la manière de... Tout d'un coup, il y avait un souffle de liberté qui s'est introduit dans ces peintures-là, en laissant pas mal de réserves, c'est-à-dire de la toile non peinte. Même, je suis revenu au corps et ce corps a été traité avec beaucoup plus de souplesse, avec un travail assez important avec la main. C'est-à-dire que j'ai utilisé la main à la place du pinceau. Bon, je n'ai pas éliminé le pinceau, mais dans des situations qui sont des parties, surtout du corps, qui demandait une sorte de spontanéité, d'efficacité, de gestualité. Et ça m'a, si on peut dire, sauvé la vie, parce que tout d'un coup, et là, il y a toute une salle qui a consacré à cette période-là, qui a démarré en 90, et qui a duré un moment. Et puis, je n'ai pas abandonné pour autant ce travail à la main, et je n'ai pas abandonné non plus de peindre comme sur le support qui est cette toile renversée. Parce que la toile, est, effectivement, elle est préparée au dos.
Sur quel exemple on peut s'appuyer là pour là. Montrer exactement?
Tout ça, c'est la toile vierge. Et là, je vous dis, c'était une période, c'était assez miraculeux pour moi. Et ça tient toujours de l'actualité que j'ai. Je travaille beaucoup avec la main, je travaille beaucoup avec la toile qui n'est pas forcément couverte. Et je pense que, vu un peu là, je ne vais pas aller trop loin, mais la densité des thèmes, des sujets, ça donne la possibilité d'une certaine respiration qui est nécessaire pour que le tableau fonctionne. Ça, par exemple, tout ça, c'est pas peint, c'est juste esquissé. Je souligne, c'était quelque chose qui m'a beaucoup aidé à continuer à fonctionner. Quand même, ça dure un moment. Il y a tous ces grands tableaux, il y a ces paysages qui ont commencé à se mettre en place. Oui.
Des extérieurs.
Des extérieurs. Bon, il y en a des paysages, des espaces en feu, avec les figures qui sont à côté des trous, des cratères, des choses comme ça. Et voilà, ça continue par cette série des tableaux qui représentent les têtes. C'est un ensemble.
Alors celui-là, il est très marquant. C'est une immense toile, hein, de plus de 6 mètres.
Pendant un moment, j'ai toujours décapité mes figures, mes personnages, mes cœurs, qui avaient quand même une certaine explication quand il s'agissait du mouvement. Le mouvement n'a pas besoin forcément de la tête. Et puis, bon, il y avait d'autres possibilités d'explication, garder une certaine constitution, musculature, sans tête, avec un personnage qui est uniquement une sorte d'anonyme individu privé de sa tête, bon, avec tous ces éléments qui peuvent être expliqués, que cet homme-là que j'ai peint, qui n'est pas libre, qui n'est pas doté d'une certaine initiative, qui fonctionne dirigé, fléché, marqué par des tracés qui sont déjà faits d'avance. Voilà une sorte de situation pas trop glorieuse pour quelque chose qui est un individu. Et là, tout d'un coup, de nouveau, pour je ne sais pas quelle raison, j'ai commencé à faire une série de têtes. Des têtes pour, comme je dis, pour récupérer toutes ces têtes que j'ai coupées avant. Et c'est un tableau qui a réuni 56 têtes, qui s'appelle Sans Nom, c'est-à-dire Sans Nom, c'est pas sans titre, c'est Sans Nom, c'est-à-dire ces personnages ont une sorte de perte d'identité parce qu'ils sont blessés, ils sont avec ces traces, des cicatrices. Et j'ai fait une, pas avec l'idée de faire une sorte de panopticum avec cet ensemble de têtes, mais à un moment donné, j'en avais tellement que finalement, l'idée m'est venue que je fasse une sorte de mosaïque avec ces têtes-là, et puis ça donnait ce tableau-là, qui effectivement, il a presque 7 mètres, et avec toutes ces têtes-là.
C'est venu au fur et à mesure, l'idée de la mosaïque?
J'en ai fait 10, j'en ai fait 15, j'en ai fait... Mais je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais avec? Les exposer une par une, par trois, c'est pas non plus. Et puis finalement, j'avais un projet d'exposition à Belgrade et les lieux s'y prêtaient. Et puis je me suis dit, bon, ben, on s'arrête en 56. J'en ai fait encore quelques-uns. Je ne vais pas les ajouter parce qu'ici, on avait à un centimètre près que le tableau ne rentre pas. Heureusement, il est rentré. Je pense qu'il est bien placé. Et Voilà, ces têtes-là ont commencé à fonctionner, et puis le tableau s'est promené entre Belgrade, Londres, Moscou.
Il a fait le tour du monde ?
Non, il n'a pas fait le tour du monde. Ce tableau n'est pas au goût de tout le monde, mais il a quand même fait un petit parcours. Et voilà, il a atterri ici avec cet ensemble de choses, et puis tout d'un coup... La tête a commencé un peu à se faire présente dans les tableaux sous différentes manières.
Ce tableau, il est en collection privée, c'est vous qui l'avez ?
Il est à moi, oui.
Et vous le gardez ?
J'ai aucune envie de le faire partir. Vous savez, on s'attache à certains tableaux qui, quand même, représentent aussi un temps que vous avez passé avec lui. Et il y a comme ça. Moi, je ne suis pas un grand producteur, c'est-à-dire, je n'ai pas deux tableaux comme ça. Bon, si j'en avais deux ou trois, s'il y a quelqu'un d'intéressant, que ça passe dans un lieu public qui peut l'exposer, tout ça. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas le cas. Peut-être un jour, mais ce n'est qu'à une proposition d'une institution qui est représentative et où je pourrais laisser partir ce tableau.
Et puis, si on avance un petit peu dans le temps, on retrouve, disons, la base de certaines images religieuses, comme des crucifixions et des dépositions, mais...
Oui.
Il n'y a pas un sens religieux derrière.
Il faut dire que j'ai un rapport à la religion, sauf que je trouve qu'elle a quand même donné dans l'histoire naissance à tellement des grands et beaux tableaux. Mais il y avait un tableau qui m'a poursuivi depuis très 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 longtemps et qui est ce retable de Matthias Grünewald qui se trouve à Colmar, qui est un tableau absolument fabuleux. Et qui a une sorte de représentation de cette histoire qui est la crucifixion et tout ce qui suit, avec cette installation, c'est une vraie installation. Et là, ce tableau qui est quand même un des rares tableaux où on a une sorte d'accès à la douleur de cette image qui est tellement efficace et qui est tellement expressive. Et à un moment donné, j'étais un peu en panne d'idées, et puis je suis parti à un voyage et j'ai amené cette carte postale avec ce torse de Christ du premier panneau, et j'ai commencé un peu à faire les variations sur ce thème-là. Et j'en ai fait plusieurs. Un, il est ici, il y a un autre qui est à la chapelle, et j'ai fait... pas mal des papiers en toujours utilisant ce torse comme une sorte de matrice et en essayant de l'interpréter aux différentes techniques, différents coloris, mais toujours me basant sur ce morceau du corps avec cette petite cicatrice. Et voilà, c'était une série qui est plus ou moins indépendante et que de temps en temps, je reviens, j'ajoute encore une pièce. Et je pense que c'est une source d'information qui est sans fin. Et puis j'ai quand même beaucoup aimé cette confrontation avec une œuvre sans pour autant la copier, mais juste en utilisant quelques éléments, notamment ce poignet-là avec cette crampe qui est à elle seule un cri de douleur et de désespoir. Malgré un petit quelque chose, une petite lueur au fond, une petite lumière, mais bon, les jeux sont faits là.
Est-ce que là aussi, il y a votre main plutôt que certains endroits ?
Ces parties sont faites à la main, comme outil. Je n'utilise pas le pinceau. Donc, de temps en temps, il y a des choses quand la main ne peut pas réaliser un petit détail ou quelque chose. Mais en gros, c'est un travail de la paume, ou je ne sais pas
oui,
comment
la paume,
on peut...
Oui.
Là, cette partie-là.
Cette partie-là.
Ouais. C'est une technique, c'est un travail qui est très incertain. C'est-à-dire, on ne sait pas, parce qu'on prend à 50%, on sait... dans quel endroit de cette table avec la couleur on peut prendre des choses, mais je les mélange aussi sur place, mais le résultat avec ce geste, on ne sait pas qu'est-ce qu'il donnera.
Et
des fois ça sort du premier coup, mais des fois ça quand même demande de répéter, de gratter, de décaper. Et pour ce qui fait partie du travail, chaque tableau est une autre histoire. Chaque tableau a une durée d'exécution tellement variable. Il y a des tableaux qui sont ici à la chapelle où je suis passé presque 2 ans à me, disons, satisfaire avec le résultat. Mais il y a aussi ce phénomène qui est pas uniquement le mien, mais moi je considère que bon, un tableau, il y a toujours quelque chose ou à enlever ou à ajouter. Je ne suis pas quelqu'un qui commence un tableau et qui le termine. Il commence dans un coin et il le termine dans l'autre. Ça, c'est pour moi, c'est impossible. Et aussi de faire 2 fois la même chose. C'est-à-dire, c'est ça ce qui fait quand même cette attractivité, de cette gestualité qui est tellement imprévisible, incertaine. Et puis ça, c'est un vrai plaisir quand je constate que ça peut rester. Et là, il y a ces petits moments de bonheur, de satisfaction, qui donnent quand même à vous-même le droit d'aimer un tableau que vous avez fait. Ce n'est pas toujours le cas.
C'est vrai?
Oui, mais avec le temps, je commence à vraiment être très critique à raison ou à tort, mais je pense qu'on n'a pas les pires ennemis que vos propres mauvais tableaux.
Vous pourriez nous dire quels tableaux dont vous n'êtes pas satisfait aujourd'hui, mais qui vous ont appris évidemment quelque chose. Mais...
Oui, je pense, bon, tout n'est pas pour moi.
Bien sûr.
C'est valeur égale, intérêt. Mais ce que j'ai choisi, je pense que je n'ai pas eu tort de les choisir. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop de possibilités de choisir d'autres tableaux, parce que je répète, je ne suis pas un grand producteur, je n'ai pas 15 tableaux de la même série et je me trouve avec l'angoisse de lequel choisir. J'en ai 5 ou 6, c'est ça. Et puis, pour quand même composer cet accrochage, j'ai passé vraiment un moment à me dire qu'il ne faut pas que tu te trompes, parce qu'un tableau en trop peut nuire à l'ensemble. Et là, je pense que j'ai fait un accrochage qui est rythmé, qui est avec des thèmes qui se suivent par rapport aux salles, par rapport à une chronologie. Et je pense qu'avec l'aboutissement de ces tableaux qui sont les derniers à la chapelle, je pense que j'ai fait un peu le tour de ces 40 ans de peinture.
Alors, c'est effectivement fabuleux, c'est que dans l'espace d'exposition, vos toiles semblent avoir été faites pour être là. Ça, c'est un hasard des lieux et de la rencontre avec votre peinture. Et parmi toutes les toiles exposées, effectivement, toutes se correspondent, se répondent, respirent parce qu'on passe d'un espace à l'autre. Il faut dire que là...
Je pense qu'on a évité une possible monotonie, mais... Ce que je constate, que finalement, il y a une sorte de cohérence à travers toutes ces salles, mais qui ne sont pas répétitives. Je veux dire qu'il n'y a pas de possibilité de constater une sorte de fatigue, de quelque chose. Chaque salle a une autre ouverture et en sortant, elle est fermée aussi. C'est-à-dire, c'est comme des ensembles qui se suivent, qui ne se contredisent pas et qui finalement, avec la dernière série de tableaux, il y en a une partie qui n'a jamais été montrée.
On va en parler tout de suite.
Et où il y a quand même une sorte, je pense, une ouverture possible. Je pense que le rideau n'est pas encore tombé.
Alors effectivement, il y a 2 espaces d'exposition. Il y en a un autre dans une chapelle où vous avez exposé les dernières toiles, en fait.
Oui.
Moi, au début, je vais vous dire, je pensais que c'était là que j'allais trouver les crucifixions, etc.
Oui.
Et justement, c'est autre chose qu'on découvre. On est très surpris et en même temps, on est très, très ému.
Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, bon, il y a une différence aussi qui est une différence chromatique.
Oui.
Ça a passé dans une gamme plus froide, un peu bleutée. La dernière salle, ici, la salle 10, annonce cette série de tableaux qui sont dans la chapelle. Et là, il y a un ensemble que je pense qui se tient au niveau chromatique d'abord, mais au niveau thématique aussi. Ce sont des images, des peintures avec tout d'un coup, avec ces immenses oiseaux noirs, des corbeaux qui sont envolés du sol et qui sont lancés dans le ciel en survolant les corps qui sont dans des situations un peu de on peut les définir ce qui rappelle un peu le Prométhée, des choses qui sont proches de ça. Et je pense que c'est l'aboutissement de cette exposition. Si cette chapelle n'a pas été possible, je pense que l'exposition serait quand même amputée d'une fin logique. On peut dire que c'est annoncé là dans cette dernière salle de Saint-Martin, mais pour moi c'était très important de quand même continuer cette série et de la voir là. Et puis avec ces tableaux qui sont d'une taille assez importante, on aurait presque l'idée que c'est des tableaux qui étaient faits pour. Mais
et on ne les imagine plus ailleurs.
Oui, ça serait difficile de les voir parce qu'il y a quelque chose, il y a une osmose entre l'espace et les sujets et puis cette lumière qui est tellement toujours particulière dans ces lieux sacrés. Ça vraiment, c'est pour moi, je pense que c'est une des ensembles que j'ai exposé le plus réussi parce que tout allait ensemble et tout était fait comme l'espace et les tableaux un pour l'autre.
Ouais. Ouais. C'est la première fois que le public peut les voir, ces dernières toiles.
Oui, il y a un tableau qui est dans la dernière salle à Saint-Martin et puis les trois grands tableaux qui sont du front là, qui sont pour la première fois sortis.
C'est celui-là. Ouais. Ça, c'est le corbeau
qui termine l'exposition ici
sur une potence, il y a les trois corps qui pendent et les corbeaux.
Ce tableau m'a donné beaucoup de mal parce que là il y avait juste cette approche d'une nouvelle manière au niveau, pas manière de peindre du geste, mais manière de concevoir l'espace avec cette volonté d'animer ce ciel sur lequel ces corps sont projetés. Et puis bon, c'était un travail de longue durée.
Le premier espace d'exposition se clôt sur ce tableau qui est extrêmement fort, tous, hein, mais celui-là particulièrement. Et c'est vrai qu'on va vraiment crescendo dans la découverte des toiles. Et au cœur de la chapelle, il y a une immense toile, encore un très très grand format, hein, de 2,50 m sur 5 m de long, et qui s'appelle Feu. Là aussi, il y en a plusieurs des feux, mais bon, celui-là, il est...
C'est le dernier de la série, de ce format-là, et sur ce thème-là. Là. Et je pense que ça s'intègre bien dans l'ensemble et encore au niveau chromatique aussi parce que c'est quand même important quand on a un lieu comme ça de faire une sorte d'équilibre et de varier les thèmes, les sujets, mais qu'il y a une sorte d'enveloppe qui enveloppe le tout.
Pour vous, ça n'a pas été trop difficile de trouver cet équilibre entre les pièces majeures et puis les 60, il n'y en a pas une. Tout à l'heure, vous nous avez dit que chacune avait sa place, bien sûr.
Vous savez, moi, j'ai très, très, très bien étudié les possibilités des lieux et je ne me suis pas trompée. Il n'y avait pas un tableau de plus ni un tableau de moins. J'aurais aimé qu'il y ait 2-3 salles de plus dans cette partie là, mais
il y a un regret, un tableau qui manquerait,
que j'ai pas pu avoir et qui rentrait pas. On peut pas bourrer parce que je pense que j'insiste sur l'accrochage qui est juste pour ne pas trop encombrer. C'est inutile parce que les tableaux peuvent parfaitement s'entretuer et puis l'effet est désastreux.
Une dernière chose, parmi les toiles qui sont ici, est-ce qu'il y en a que vous n'aviez pas revues depuis très longtemps?
Il y a 2-3 tableaux qui sont dans des collections et notamment il y a 3 tableaux que je n'ai pas vus depuis longtemps qui sont dans les collections des musées.
Et ça vous a fait quoi de les revoir?
J'étais pas déçu.
Bon. Nous non plus, en tout cas, de cette exposition qui se déroule à Montélimar du 12 juin jusqu'au 26 septembre à l'Espace Saint-Martin et au Centre d'art Mabrian. Je vous invite tous à venir voir les magnifiques toiles de Vladimir Velikovitch. Presque 50 ans de peinture réunis avec un accrochage superbe qui ponctue tout un parcours C'est pas une carrière, c'est pas une rétrospective, c'est
une vie.
Voilà. Merci Velikovic.
Merci à vous.
Le peintre Dominique Coffinier est commissaire des expositions annuelles d'art contemporain organisées par la ville de Montélimar chaque été. Retour sur la préparation de l'exposition Vladimir Velikovic peinture depuis 1968 et les premières impressions du public.
Dominique Coffinier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le commissaire de l'exposition qui a lieu en ce moment à Montélimar. Vladimir Velikovic, peinture depuis 1968. Une grande exposition, à peu près 50 toiles, plus une dizaine, pratiquement non exposées, dans deux espaces différents. Alors, vous êtes le commissaire de cette exposition. Comment est d'abord venue l'idée de cette rétrospective sur 50 ans de peinture de Vladimir Velikovic ?
Alors, l'idée de cette rétrospective existe grâce à une grande histoire d'amitié entre Vladimir Velikovic et moi-même, et puisque l'art nous lie depuis une dizaine d'années d'amitié. Vladimir a été invité en 2005 pour une exposition qui s'appelait Liberté, où ils étaient donc sept artistes. Et depuis, il a toujours suivi l'exposition annuelle qui se fait chaque été. Et il a souhaité, l'an dernier, venir au vernissage. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'organiser ce parcours avec ce qu'on intitule les années parisiennes depuis 1968, puisque Velikovic, bien sûr, peignait avant, depuis 1956. Mais c'était donc chez lui, en Yougoslavie. Et il a souhaité que l'on présente ce parcours sur un petit peu plus de 40 ans de travail.
Alors, comment vous avez procédé ? Vous aviez une idée de départ ou chronologique ou pas ? Parce que...
Alors, avec Velikovic, les choses finalement s'organisent très facilement parce que c'est un très grand professionnel. Il est très exigeant sur l'ensemble du fonctionnement de l'organisation. Par exemple, il a fait pour chaque lieu une maquette avec les salles précises à l'échelle. Et on a découpé pendant 2 mois des petits carrés de papier rouge avec les dimensions des tableaux. Et toute la scénographie s'est mise en place petit à petit, en sachant que, bien sûr, nous aurions des surprises à l'arrivée. Donc, on a fait venir plus de tableaux que ce qu'il en fallait, parce qu'il y avait aussi des problèmes techniques pour entrer certaines œuvres dans les salles. Et on a réussi à avoir 3 prêts de musées nationaux, dont Beaubourg, le Fonds d'art contemporain et le Musée Cantini de Marseille, qui ont prêté des œuvres très importantes dans l'œuvre de cet artiste.
Alors, vous pouvez citer les 3 œuvres et puis...
Alors, nous avons le JB qui nous a été prêté par Beaubourg. Nous avons un grand lévrier qui est le FNAC. Et nous avons la grande poursuite qui est le Musée Cantini de Marseille, qui pour lui était des œuvres vraiment majeures à avoir dans cette exposition, parce que c'est vrai que ça définissait un petit peu des périodes importantes dans son œuvre.
Alors, l'exposition se déroule sur 2 espaces. Et si on commence par l'espace contemporain à Saint-Martin... Il y a à peu près 10 salles. Vous avez choisi là un parcours, disons, chronologique. Et à chaque salle correspondent 2, 3 tableaux, pas davantage. C'est justement nécessaire à ce parcours assez long, en fait. Comment vous avez découpé le temps de la peinture de Velikovic ?
Alors, le temps de la peinture de Velikovic, c'est vrai que 2, 3 tableaux, ça suffit pour une période. Sont des œuvres qui sont tellement complètes et tellement fortes en émotion et dans le côté tragique de son œuvre, puisque le travail de Velikovic, c'est la douleur. C'est ce qu'il ressent, ce qu'il a ressenti lui-même très jeune, et c'est ce qu'il ressent en permanence depuis des dizaines d'années. Et donc, je crois qu'effectivement, choisir 3 tableaux sur une période, ça suffit, parce que quand on ressort de la salle, le spectateur a besoin de respirer un petit peu, et nous-mêmes aussi, pour la... toute l'installation de l'exposition. C'est facile à la fois de choisir les œuvres, mais c'est très difficile parce que tout cela est tellement chargé d'émotions. Puis il y a un grand respect par rapport à Velikovic qui de toute façon s'impose par ses œuvres. Et je pense que ça, c'est avant tout, moi, la, la chose essentielle, je me bats pour ça en permanence, puisque moi-même, en tant qu'artiste, je pense que ce qu'il faut avant tout, c'est respecter l'individu, comme tout individu d'ailleurs qui existe sur notre terre.
Quand on arrive à l'espace Saint-Martin, tout de suite, il y a une grande, grande toile que vous avez choisie pour introduire ce parcours.
Oui.
Avant même de passer les portes. Une toile majeure.
Oui.
Vous pourriez nous la présenter ?
Alors, tout à fait.
Et nous expliquer ce choix.
Alors, c'est une toile qui s'appelle Corbeau. Et en fait, c'est un grand paysage, presque abstrait, qui est vraiment... Il y a très peu d'éléments. Il y a juste une grande fosse, un plan lointain assez classique, donc avec le ciel, des nuages, et les corbeaux qui sont les seuls à survivre. Et je pense que c'est une œuvre qui était prévue dans la salle numéro 7. Et finalement, je me suis rendu compte, quand les œuvres étaient déballées, que c'est une œuvre qui était très forte et on ne pouvait pas la mettre encore avec
une autre œuvre.
Et donc, voilà, on a décidé de la mettre là. Et je pense que c'est aussi une œuvre qui nous sort un petit peu du tragique. Et c'était très important pour accueillir le voyageur, le passant, de démarrer avec ça, parce que c'est vraiment un appel. C'est une œuvre qui sent vraiment tout le travail de Velikovic.
C'est une œuvre des années 90.
Tout à fait. Et je pense que ça amène une certaine douceur pour donner envie de rentrer, de passer la porte du lieu.
Voilà. Alors, ce que vous avez la coquetterie de ne pas dire, c'est qu'elle fait face à une de vos œuvres qui est éloignée tout en hauteur, puisque là, on est dans le hall d'entrée de l'espace
tout
Saint-Martin.
À fait, oui.
Et il y a donc un petit clin d'œil qu'on ne peut faire que si on sait qu'elle est de vous.
Tout à fait, qui est une œuvre qui a été commandée par la ville de Montélimar, donc pour l'inauguration de ce lieu, et qui s'appelle Résonance. Donc je pense qu'effectivement, il y a un bel accueil.
Quand on rentre, donc on suit vraiment un parcours chronologique. Vous avez choisi de montrer quelques toiles de cette période, un petit peu avant 68 justement.
Oui. Oui, oui.
Pour montrer tout ce parcours.
Oui, pour montrer que Velikovic n'a pas toujours été que dans le gris et dans le brun, et que finalement, ses œuvres très colorées, c'est vraiment la période, la transition où il est arrivé à Paris, et où il a eu, subitement, il s'est rendu compte que la couleur existait, et qu'il a pu s'acheter des tubes et toutes sortes de couleurs, et donc il a eu une overdose de couleurs. Et ce sont des tableaux qui sont absolument sublimes, parce qu'on sent que ça foisonne.
Quel est le tableau pour vous qui exprime le plus ce foisonnement, justement, cette vie qui éclate ?
Ah, pour moi, c'est l'orateur. C'est vraiment l'orateur. Je trouve que ça, c'est un tableau témoin de l'arrivée de Velikovic et qui, aujourd'hui, est toujours d'actualité. Et parce que je pense qu'effectivement, je ne dirais pas que c'est un autoportrait de l'époque le concernant, mais Velikovic est un orateur. C'est un orateur très économe sur les mots, mais qui a tellement remplacé tout ça par le jet d'encre, par ce flot de peinture, que je pense que ce tableau est un tableau fétiche dans son œuvre. Enfin, c'est comme ça que je le ressens.
Quelles sont les salles de ce parcours qui suscitent le plus d'interrogations, selon vous ?
Il y a quelques salles qui sont vraiment des points d'interrogation, qui questionnent vraiment, dont on a la salle où il y a les deux poursuites, qui vient après les lévriers, où je pense que là, Velikovic nous a vraiment montré qu'il s'affirmait sur le mouvement, c'est-à-dire sur la vie. C'est-à-dire que malgré tout l'anéantissement que les hommes font à d'autres hommes, puisque c'est une phrase de Velikovic, je ne fais que peindre ce que l'homme fait à l'homme ou est capable de faire à l'homme. Et je pense qu'il nous prouve, par tous ces tableaux, le mouvement et que l'homme, de toute façon, a beau être décapité, a beau être anéanti, la mémoire, elle continue, et lui nous le transmet par un mouvement très physique et un dessin absolument grandiose, parce que c'est bien sûr un énorme dessinateur. Et je crois que la salle des lieux est une période très importante parce que la figure humaine a totalement disparu. Il ne reste plus que quelques rats, quelques petits animaux qui sont au sol écrasés, et il ne nous reste plus que des potences, des crochets, et toujours cette fosse qui est la sortie, bien sûr, qui est la fin. Et je crois que ça, c'est une salle très importante parce que ces lieux, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est le lieu de toutes les horreurs, la fin de quelque chose. Mais chez Velikovic, la fin, ça veut dire aussi toujours, sur une autre salle, une renaissance, parce que c'est finalement une peinture qui est pleine d'espoir.
Qu'est-ce que vous avez choisi d'exposer dans le centre d'art de l'espace Chabrian, une chapelle
Alors Chabrian,
qui est à quelques pas du musée.
On finit donc par des tableaux plus récents. On a un très grand paysage, aussi un grand paysage de feu. Et nous avons des crucifixions avec les hommes. et cette grande passion qu'il a pour les oiseaux, donc pour les corbeaux et moi ce que j'appelle les aigles, enfin les rapaces. Et je pense que là, effectivement, ces tableaux sont tout à fait en cohérence avec le lieu, puisque c'est une ancienne chapelle. Et ils sont de dimension physique, tout à fait en relation avec les murs, avec l'esprit. Et je crois qu'effectivement, il y a une émotion très très forte qui se dégage au niveau de la dernière période de l'exposition.
Comment réagit le public qui...
Bah écoutez, pour l'instant, moi je suis très agréablement
ça
surpris
fait une
parce
semaine que
c'est ouvert. Les premiers visiteurs, on a bien sûr tout de suite des amateurs qui connaissent très bien Velikovic, qui sont venus et qui sont absolument stupéfaits par l'importance de cette exposition. Et tout le monde découvre le parcours de Velikovic dans son ensemble, puisque ça n'a jamais été montré, c'est la première fois en France. Et beaucoup de visiteurs qui ne connaissent pas cette œuvre et qui bien sûr reçoivent un énorme choc, vivent un énorme choc, mais ressortent en disant que c'est de la très grande peinture. Et donc je pense que là, le pari est gagné, parce qu'après tout, l'art c'est fait pour ça, c'est fait pour se choquer. Et si au-delà du premier choc négatif, les gens sont un petit peu touchés dans leur chair, et qu'ils en ressortent avec le sourire, bien bravo Monsieur Velikovic.
Merci Dominique Coffinier.
Merci à vous.
Vous venez d'entendre une émission de Canal Académie consacrée à l'exposition Vladimir Velikovic peinture depuis 1968, une exposition organisée par la ville de Montélimar à Montélimar et qui se déroule du 12 juin au 26 septembre 2010 à l'espace d'art contemporain Saint-Martin et au centre d'art de la chapelle Chabriant.